Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. On vous présente aujourd'hui Philippe Pérez, conseiller du président de l'entreprise Courlegendre. Philippe est un amoureux des mots. Vous le comprendrez pendant tout cet entretien, Philippe a beaucoup voyagé physiquement, mais également avec les mots, et nous parle de la puissance d'un vocabulaire enrichi grâce à toutes ses lectures. Ce qu'il aime particulièrement, c'est ouvrir un dictionnaire et découvrir des nouveaux mots. Et cette passion, il la transmet également à ses 4 enfants. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir cela à travers notre conversation. Bonjour Philippe.
Bonjour Stéphanie, bonjour Sylvie.
Nous sommes très honorés de pouvoir vous interviewer aujourd'hui sur un sujet hyper important, celui du vocabulaire et de l'apprentissage de la langue. En effet, j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que les rapports PISA ont révélé en France récemment une stagnation des résultats de nos élèves français en langue française et notamment en lecture. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un creusement très important des inégalités entre les élèves les plus forts et les élèves les plus faibles. Au niveau de la compréhension écrite, donc je suis super contente de pouvoir aborder ce sujet avec vous qui, je le sais, vous passionne énormément. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de votre parcours.
Ah, alors mon parcours. Donc j'ai un parcours à la fois classique et probablement un petit peu atypique puisque J'ai travaillé dans 3 univers différents que sont l'ingénierie, la diplomatie et le développement économique local. Dans l'ingénierie, j'ai fait des choses au début de ma carrière autour de la compréhension, de l'extraction du sens dans ce qu'on voit dans une image, que ce soit des tumeurs ou des images de satellites, donc d'apprendre à traquer tout ce qui est fugace dans une image. Ensuite, j'ai fait de la diplomatie pendant une 15aine d'années, où j'ai eu la chance d'être en poste dans 3 villes formidables que sont Tokyo, San Francisco récemment et Wellington en Nouvelle-Zélande, qui est l'ambassade la plus lointaine de Paris pour nous. Où là, le métier de diplomate, j'ai découvert à la fois ses codes et sa grande liberté d'invention. Finalement, on l'imagine peut-être pas, mais et c'est un métier qui est très très biface, je dirais, qui est tourné sur la diffusion de ce qu'est notre pays à l'étranger. et aussi vers la captation de tout ce qu'on voit localement pour le resservir en France. Voilà. Et maintenant, je fais quelque chose de très différent puisque je travaille dans un fonds d'investissement après avoir dirigé les cours Legendre. Donc, je dis que j'ai un parcours. Alors, j'aime pas tellement le mot zigzag, mais je préfère le mot en cavalier d'échecs. J'aime bien cette figure des échecs parce que elle fait du latéral, elle est obsessionnelle. Alors, elle peut sauter aussi par-dessus des obstacles. Mais quand on la compare à l'autre pièce qui a la même valeur aux échecs et le fou passe son temps, il peut aller loin, mais il passe son temps sur une seule couleur toute sa vie. Et moi, j'ai préféré le faire en cavalier d'échecs. C'est un peu erratique parfois, mais j'espère que à la fin de ma vie, j'aurai pu couvrir une bonne partie de l'aire de jeu. Voilà, voilà en quelques mots mon parcours.
Et il y a toujours un sujet qui vous a passionné, c'est celui de l'éducation. Alors, depuis quand ce sujet vous intéresse? Pourquoi avoir décidé récemment, notamment, de rejoindre le cours Legendre? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Voilà, j'aimerais un peu savoir cette histoire par rapport à l'éducation.
Ouais, alors, en fait, si j'y réfléchis un peu, je me passionne moins pour l'éducation que pour le fait d'apprendre, sur l'apprendre, en fait. Mon ami André Jordan a écrit un très beau livre là-dessus il y a quelques années sur apprendre avec un point d'exclamation. Toutes les formes d'apprendre et surtout l'autodidaxie finalement, c'est-à-dire cette fascination pour la connaissance, quelles sont les motivations, comment on s'améliore, qu'est-ce qui marche, quelles sont les stratégies pour accéder à des savoirs. Et finalement, une forme de tropisme, de la même façon que certaines fleurs se tournent naturellement vers le soleil. Ce côté qu'a l'être humain de se tourner presque naturellement vers la connaissance. Donc, cette chimie qui se passe dans un cerveau, qu'il soit jeune ou moins jeune, j'ai une obsession pour cette question de l'apprendre. Je sais pas si c'est quelque chose, je sais pas depuis quand j'ai l'impression que c'est depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je pense qu'il y a une question familiale là-dedans. Je viens d'une famille, qui a migré. Mes parents étaient pieds noirs, ils sont arrivés dans les années au début des années 60 en France avec une famille d'origine espagnole. Il y avait dans le fait d'apprendre un côté presque sacerdotal. Mon père était instituteur, on venait d'une famille modeste, et donc il y avait ce côté l'apprentissage sera la voie d'une certaine façon. Et je me rappelle de certains souvenirs aussi. Si vous avez vu ce film avec Viggo Mortensen, Captain Fantastic, où à un moment, dans un des enfants dit le mot intéressant et il est repris parce que le mot intéressant n'est pas suffisant, en fait. Donc j'ai baigné dans cet environnement-là où il fallait affiner sa langue et préciser ce qu'on voulait dire. Et puis peut-être en y réfléchissant un petit peu, je crois que chez moi il y avait une valeur refuge aussi peut-être à l'école et dans l'éducation. Je pense que le monde des idées est un monde qui peut être très, par rapport au vrai monde, je dirais, il est calibré, on s'y sent peut-être protégé, alors que le monde réel, on le voit en ce moment, est peut-être moins rassurant. Et très tôt, je me suis rendu compte aussi que, je me rappelle toujours avec beaucoup d'émoi de la lecture d'un livre de George Snyder qui s'appelle « La joie à l'école ». J'ai eu cette sensation très aiguë que le lieu scolaire ou les lieux de transmission de savoir étaient des lieux où régnait une joie spécifique, très humaine en fait, à ce qu'était l'éducation.
Et comment vous reliez cela à votre rôle également de père de 4 enfants, si je me trompe pas?
Ah oui, ça, vous êtes bien informé. oui, je suis père de 4 enfants. J'ai 2 filles et 2 garçons. Comment je relis ça à ça? Disons que j'ai trouvé que c'était la parentalité quand on est un passionné de l'apprendre, j'ai trouvé que c'était un formidable terrain d'expérimentation in vivo. Comment dire? Peut-être sur la partie, je sais pas si un jour ils écouteront ce que je dis là, mes enfants, mais avec 4 points, parfois on est capable de couvrir un terrain assez vaste, et je pense qu'ils sont aussi différents entre eux qu'ils puissent l'être. Et ça nous a permis d'avoir des atypicités cognitives dans la famille, de tester des stratégies très, très 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 pragmatique, très innovante parfois pour certains d'entre eux. Bon, on parlera peut-être tout à l'heure de la question de l'éducation à l'étranger, mais vraiment je l'ai vécu comme une sorte d'exhausteur de stratégie, de tactique éducative. Ouais, voilà, en tout cas des je sais pas si on aura réussi sur tout, mais bon, en tout cas c'était un beau terrain d'expérimentation.
On le comprend tout à fait. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle de votre goût pour les mots. Alors, vous croyez fondamentalement en la puissance de la langue. Qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi avez-vous cette croyance?
Ouais, alors ça, c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qui est au cœur de la personne que je suis. Bon, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a une position esthétique d'abord, on peut en reparler, mais je crois qu'avant tout, il y a quelque chose d'idéologique dans cette chose-là pour moi. Je sais que ce sont des débats aujourd'hui avec les sciences cognitives qui rééclairent cette question-là d'une façon un petit peu différente, mais je fais partie des gens qui pensent que la langue et les mots structurent véritablement la pensée. Wittgenstein disait « les limites de mon langage signifie les limites de mon monde », et en fait j'ai véritablement cette sensation là donc il y a vraiment une posture en fait chez moi, j'ai cette conviction. Et l'autre chose peut-être, c'est que c'est moins la langue pour moi que les mots, effectivement. Donc de ce point de vue là j'ai une position qui est presque atomiste, en fait, je dirais. Donc j'ai, là aussi, c'est peut-être une façon, c'est peut-être un refuge, c'est-à-dire de partir du bas et de se dire patiemment, on collecte dans son sac les petits grains, en fait, les atomes qui finiront par faire le langage, comme une sorte de, je sais pas, de druide qui se balade dans la forêt et puis qui ramasse les choses et qui en fera ensuite ses sauces personnelles. Donc il y a vraiment cette question du mot qui est importante pour moi, et qu'ensuite on puisse les agencer par deux, par trois, pour finir par faire des choses plus complexe, et il y a un peu comme en chimie finalement. Donc il y a une table de départ avec des grains fondamentaux, et puis on vient les assembler. Donc c'est vraiment je crois beaucoup à la puissance des mots. S'imaginer que les mots ne sont que les constituants finalement assez neutres de ce qu'est le langage, je pense que c'est une erreur. Je pense que de la même façon que les physiciens ont un jour compris qu'au sein des atomes il régnait c'est pas des choses neutres, inertes, mais il régnait une puissance monstrueuse au sein des atomes. Je pense qu'au sein des mots, c'est à peu près la même chose.
Et comment avez-vous appréhendé cet apprentissage des mots dans votre jeunesse?
Alors un peu comme je disais tout à l'heure, je pense que la jeunesse, dans ma jeunesse, il y a eu cette notion d'intégration linguistique, de conquête, en fait, de sentiment que les mots étaient un instrument de conquête, avant d'être un instrument de jouissance. Mes grands-parents paternels étaient des gens très frustes, en fait, qui avaient peu de mots, qui parlaient plutôt espagnol, et dont je pouvais mesurer petit qu'ils étaient empêchés d'une certaine façon. J'appréhendais la langue comme un instrument de positionnement personnel dans le monde. Bon, puis après, rapidement, derrière est venue la question de la jouissance, et vraiment, je me rappelle d'avoir écrit un papier de blog là-dessus il y a quelques années, sur confesser un plaisir quasi coupable, en fait, dans une forme de dégustation. Et quand on relit Marcel Pagnol aujourd'hui, il y a ce passage dans je ne sais plus lequel de la trilogie, où il disait qu'il adorait des mots... je sais plus lesquels, vermoulu ou manivelle ou je ne sais quoi, et qu'il écoutait l'oncle qui parlait, et qui, quand l'oncle évoquait certains mots un peu compliqués, je sais plus ce qu'il avait dit, filigrane ou des choses comme ça, ou plénipotentiaire, voilà, je me rappelle de celui-là, et je relire, réentendre ce passage de Pagnol, c'était exactement ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il y avait une forme d'appétit presque... érotique, enfin, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas vraiment pour les mots.
Très bien. Et alors, il est souvent difficile de donner le goût des mots aux enfants. Comment est-ce que vous avez procédé en tant que père?
Encore une fois, je pense à tâtons, et peut-être aussi comme... peut-être aussi comme un ingénieur de temps en temps, alors ça a des bons et des mauvais côtés, mais en produisant des dispositifs peut-être. Mais non, je pense que donner l'idée, et rétrospectivement, j'essaie de me rappeler si c'est vraiment comme ça que je l'ai fait, mais d'accompagner les enfants dans au cœur du bestiaire, voilà, d'une certaine façon, de se dire, vous voyez, j'ai vécu 5 ans de ma vie au Japon. On dit que pour parler japonais, il faut apprendre à peu près 2000 kanji, c'est la nomenclature officielle. Il y en a un petit peu moins de 2000, mais que pour être un lettré, bon, il y a à peu près 10 000 kanji qu'il faut connaître pour bien lire le journal. Donc, dans une table chimique, il y a une centaine d'éléments. Ben voilà, vous en faites 100 fois plus. Vous avez 10 000 grains à apprivoiser, une sorte de bestiaire, et vous promenez là-dedans, allez à leur rencontre avec des enfants. Je pense pas qu'on leur ait parlé beaucoup le langage bébé à des âges où on peut être tenté de continuer à descendre le langage à un certain niveau. Ça a des inconvénients et des avantages, mais donc pour autant que je me rappelle, on les a accompagnés au travers du bestiaire avec les mots qui allaient bien, je pense, et puis tous les petits dispositifs sur les post-it qu'on peut mettre sur le pare-brise d'une voiture pour les longs voyages, sur les évidemment les cahiers de mots qu'on peut remplir et qui sont comme des trésors ou des bréviaires ou des étymologies surprises ou en y repensant, je crois que j'ai eu la chance en fait d'être l'élève de mon père deux fois dans ma vie. Quand j'étais tout petit, il avait une classe unique dans le nord de la France, et puis quelques années plus tard en CM2. C'était un petit peu plus inconfortable parce que je savais pas comment l'appeler devant les autres élèves. Et je me rappelle qu'il nous proposait, je me rappelle de celui-là en particulier, un dispositif où il prenait deux mots, censément éloignés ou contraires, et de nous montrer déjà qu'est-ce que ça veut dire que le contraire d'un mot, c'était pas aussi simple que ce qu'on voulait bien dire. Et il tendait un fil entre ces deux mots, et il nous montrait comment on pouvait installer d'autres mots entre ces mots contraires. C'est-à-dire d'installer une forme de complexité dans le langage. Voilà. Donc c'était des choses sans doute que j'ai reproduites, avec les enfants.
Et Sylvie, tu as quelque chose à ajouter là-dessus par rapport à la pédagogie Montessori, notamment sur l'apprentissage des mots dès le plus jeune âge?
Oui, en fait, parce que Maria Montessori, elle avait observé que les enfants entre 0 et 6 ans traversaient une période sensible qu'on appelle la période sensible du langage. Et c'est là où ils sont particulièrement, ils absorbent avec une facilité rare tous les mots. Et c'est le moment, donc il faut leur donner le plus de vocabulaire possible. C'est pour ça que tout le matériel, quoi, pratiquement tout le matériel qu'elle a conçu a des buts directs, donc développer les sens, développer l'autonomie, etc. Et comme but indirect, il y a toujours le développement du vocabulaire. Toujours, toujours, toujours. Quand on va faire, par exemple, la tour rose que tout le monde connaît, ben, on va développer le cube le plus gros, le moins gros, etc. Il y a tout ce qui est cabinet géométrique avec toutes des formes géométriques extraordinaires. Et souvent, les gens disent, mais pourquoi vous leur apprenez ce vocabulaire-là? Ils n'en sont pas du tout à apprendre les formes géométriques. Mais c'est juste pour leur donner le goût des mots. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec Philippe, parce que leur donner le goût des mots et aussi développer chez eux le vocabulaire le plus varié possible. Donc c'est pareil, on va pas leur dire regarde cet arbre, regarde cet oiseau, on doit leur dire regarde ce sapin, regarde cette hirondelle, toujours donner le plus possible de vocabulaire pour qu'après ça s'ancre en eux et qu'ils aient toujours ce goût des mots et de développer leur vocabulaire. Et en élémentaire on continue de la même façon parce qu'on part aussi du principe que avoir un vocabulaire riche et varié va les aider au développement de leur confiance en eux. Parce que plus ils ont des mots pour décrire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent pas, leurs émotions, leurs sentiments, plus ils seront bien dans leur peau et plus ils auront confiance en eux. Donc pour nous, la langue, le vocabulaire, c'est vraiment fondamental. Donc on a énormément de matériel à notre disposition, notamment tout ce qui s'appelle carte de nomenclature, pour développer mais le plus de mots possible dans tous les sujets possibles. Bon, bien sûr, en commençant par les sujets qui les passionnent, donc c'est pour ça aussi qu'on les observe, pour trouver le sujet qui les passionne, et à ce moment-là, créer des fiches pour justement les pousser à apprendre d'autres mots. Donc pour nous, on a énormément de matériel en Montessori pour ce développement du vocabulaire. Donc on est exactement dans ce que dit Philippe, en fait.
Vous êtes d'accord, Philippe, avec...
Je,
avec ce que Sylvie partage.
Je ne pourrais être plus d'accord et je découvre en écoutant Sylvie que je devais être montessorien sans le savoir alors à l'époque. Mais vraiment, je souscris à 1000% à ça et non seulement de les collecter, de les connecter ensuite et de les parfois même de les mettre sur l'établi ces mots-là et de venir les casser pour voir si qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce qu'il y a une ou deux amandes à l'intérieur, est-ce que donc vraiment et c'est l'une des choses qui nous rend le plus humain d'une certaine façon.
C'est sûr. Et comment avez-vous géré l'aspect multiculturel? Donc, vous avez évoqué avoir vécu quand même dans plusieurs pays avec vos enfants, certainement. Comment vous y êtes arrivé avec vos enfants et quelle a été votre expérience à ce sujet?
Est-ce que j'y suis arrivé? En tout cas, on s'est efforcé, mais là aussi, le résultat, il est toujours en devenir. C'est une question complexe, le bilinguisme ou le multilinguisme. Je serais tenté de dire que déjà, quand on parle une seule langue, il y a une forme de gémilité cachée dans sa langue maternelle, puisque pour moi l'oral et l'écrit sont déjà une forme de bilinguisme d'une certaine façon, et on le voit chez Cours Legendre avec les nombreux enseignants de qualité avec lesquels on travaille, à quel point ça peut même être deux langues assez différentes, l'expertise vers l'écrit ou vers l'oral. Sur les langues étrangères, je peux peut-être dire quelque chose là-dessus. C'est-à-dire, il y a quelques années, j'avais passé, en rentrant de Nouvelle-Zélande, j'ai pris une année sabbatique pour écrire un ouvrage d'histoire des sciences où je raconte, c'est un almanach en fait donc 366 jours de l'année, avec des petits moments de sciences qui sont capturés dans tous les domaines des sciences qui se sont passés ce jour-là dans l'histoire depuis le XVIIe siècle. Et j'ai regardé aujourd'hui quelle était la date en question, et il se trouve que le 12 novembre, il y a en 1801, un Anglais du nom de Thomas Young a proposé à la Royal Society son interprétation de ce qu'on appelle toujours dans les cours de physique les trous de Young, qui montrent qui sont une des preuves que la lumière est une onde. Donc il a fait deux trous, il a diffusé de la lumière à travers ces deux trous, et qu'est-ce qui se passe derrière ces deux trous? On a des figures d'interférence, donc des moirées, des patterns des motifs de moirure, où on voit en fait que c'est les deux ondes qui rentrent par les trous viennent à l'arrière produire des formes soit exaucées, donc quand les deux ondes sont en conjonction, soit elles s'annulent et ça produit une zone d'ombre. Et on a tous vécu ça quand on jette des cailloux, double cailloux dans une mare. Pourquoi je parle de ça? C'est que quand on a deux langues à disposition, et c'est vrai pour certains de nos enfants, on a vu à quel point le bilinguisme pouvait parfois avoir une influence constructive, et toutes les planètes s'alignaient, et donc on a des gens qui sont parfaitement bilingues, qui sont à l'aise dans les deux langues, qui passent de l'une à l'autre. Et de temps en temps, c'est pas forcément toujours les mêmes, et à chaque moment, à tous les mêmes moments de leur vie, ça peut avoir une influence plus complexe à gérer, comme les interférences d'Young. Et on a vécu par exemple au Japon, où dans la rue, les enfants entendaient parler japonais, ils allaient à une école américaine, ils entendaient parler français à la maison. Donc il y a eu des moments un peu plus délicats à gérer, mais... je pense qu'au-delà de fournir un outil évidemment formidable dans le monde actuel à des jeunes de pouvoir évoluer dans des univers amicaux ou professionnels de dualité internationale, ça donne aussi cet accès à l'intraduisible d'une certaine façon. J'écoutais l'autre jour Valérie Zenati qui disait que en hébreu, il y avait un mot pour dire qualifier, enfin l'inverse de l'orphelin, c'est-à-dire un parent qui a perdu un enfant. Le fait de pouvoir découvrir que dans certaines langues, en français par exemple, on a un mot pour éborgner. Ça, aux États-Unis, il me disait, mais vous avez un mot spécifique pour dire enlever un œil à quelqu'un. Bon. Donc voilà, ces lacunes ou ces trous qu'il peut y avoir dans la langue de l'autre, qui sont très intéressant pour moi et pour les enfants, je pense.
Et alors, est-ce que vous trouvez qu'il y a des limites actuelles à notre système éducatif pour donner ce goût des mots aux enfants?
Alors, je ne sais pas si c'est les limites du système éducatif ou les limites une société dans son ensemble, mais alors je parle avec beaucoup de modestie parce que je suis pas un praticien de l'éducation et nos enseignants font des choses somptueuses dans ces registres-là et pour certains et certaines d'entre elles que vous avez eues dans le podcast. En termes d'hypothèse, je pense qu'il y a la question du socle commun dans une classe, de la langue, du lexique commun entre les jeunes qui sont présents. Je pense qu'une des limites, c'est peut-être aussi la survalorisation de l'image aujourd'hui par rapport aux mots. C'est-à-dire que moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est que si on était capable de mesurer avec une sorte de détecteur ou d'instrument la quantité de noms propres que les jeunes connaissent par rapport aux noms communs, on serait sans doute surpris. Donc je pense qu'il y a peut-être un rôle à réavoir d'équilibrer à nouveau, de connaître davantage de noms communs, un peu moins de noms propres peut-être, mais je pense qu'une des limites, ça peut être aussi de croire que les mots relèvent des matières littéraires. Je pense que un auteur que j'aime beaucoup, qui est Valère Novarina, dit que le langage doit retrouver sa puissance de printanière, en fait presque érogène, c'est-à-dire de retrouver et sa puissance formidable dans tous les domaines. La langue n'est pas juste cantonnée à certaines matières. Et en science, c'est quelque chose qu'on voit totalement. C'est-à-dire que comprendre les maths et les sciences, aujourd'hui, c'est une question avant tout de langue, je pense.
Oui, vous avez notamment établi un lien très fort entre les sciences et le langage. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus là-dessus ?
Oui, alors c'est quelque chose ce qui m'a toujours frappé. Je réalisais qu'être bon en maths et en physique chimie, par exemple, c'est avant tout être bon dans la compréhension des mots de ces disciplines-là. Il y a quelqu'un, c'était Labaruc que j'ai eu la joie de rencontrer à plusieurs reprises et qui est sans doute en France la personne qui l'a le mieux compris depuis une quarantaine d'années, et tous ses bouquins sont éblouissants de ce côté-là. La souffrance mathématique, dans la plupart des cas aujourd'hui, c'est une souffrance de la langue des maths. Quand vous prendre conscience du fait que alors c'est vrai en physique aussi, mais que des mots comme limite, comme groupe, comme dérivé, ou en physique, si vous prenez le mot intensité ou le mot moment, par exemple, ce qu'on appelle un moment d'inertie en physique, comment imaginer qu'un enfant n'associe pas ça, moment, à une question de durée et de temps ? Ça n'a rien à voir. Donc, je pense que quand on aura pris conscience que ces matières-là doivent passer par presque une rééducation du langage, parce que en fait, les mêmes mots qui sont utilisés dans la langue courante, quand ils basculent dans la langue savante ou la langue de l'école, en maths et en physique, ça crée des incompréhensions totales. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire important de ce côté-là.
Super intéressant. Et alors, est-ce que vous avez des rêves ou des ambitions particulières justement dans ce domaine des mots ? Je sais que vous avez plusieurs idées, j'aimerais bien que vous nous les partagiez.
Des rêves et des ambitions pour moi, pour la moi personnellement, oui. Ou pour le pays, ou je peux dire un peu les deux. Pour moi, mes rêves, c'est autour des mots, c'est de trouver un jour un peu plus de temps pour les coucher sur le papier et les faire sortir un peu plus et les publier. Donc il y a deux trois projets, un qui est terminé et un qui est sur le métier aujourd'hui. Les commandements personnels, de toute façon, les petites philosophies portables et les préceptes qui aident à traverser la vie. Donc, j'essaie d'écrire un texte là-dessus en ce moment. Mais pour parler plus, de façon plus générale, c'est de contribuer à la création d'une école, en fait. C'est le projet que j'ai porté toute ma vie. On parlait aussi de confiance en soi via les mots tout à l'heure, Sylvie. Et je pense que deux choses qui seraient au cœur d'un projet personnel de création serait autour de cet amour des mots que je peux avoir et de la puissance qu'il recèle, et de la question de la confiance en soi. Je trouve que et c'est pas simplement le fait d'avoir vécu aux États-Unis où elle est en moyenne, j'allais dire démesurée, mais plus élevée que chez nous, c'est cette question d'une forme d'audace personnelle et de dire je crois en mes capacités vraiment, et j'ai pu mesurer à quel point cette non-confiance en soi pouvait parfois être un, un inhibiteur absolu en fait chez les gens et chez les jeunes. Donc je joue avec cette idée un jour de pouvoir créer ce type de choses. L'autre chose aussi peut-être, c'est autour de l'audio. Je crois que chez Cours Legendre, on prépare pour début 2021 des annonces assez ambitieuses, très ambitieuses autour de ça. C'est-à-dire de voir comment les formes d'engrammage en fait et d'imagination que l'audio permet dans une culture qui est vraiment sursaturée aujourd'hui d'images, de se dire, y compris pour des matières même comme la géométrie, comment venir apporter des capsules sonores pour faire de l'accompagnement aujourd'hui scolaire de qualité. Donc il y a voilà quelques pistes personnelles et professionnelles.
C'est super. Et on arrive à la fin de cet entretien. J'aimerais bien que vous nous partagiez vos conseils de lecture, alors pour les petits et les grands, pour retrouver ce goût des mots, pour profiter justement de cette richesse des mots.
Les conseils de lecture. Alors, c'est marrant parce que ce matin, je suis un obsédé. Voilà, vous l'aurez compris, je suis un obsédé des dictionnaires. Là, dans la pièce où je suis, là, je suis ceinturé de dictionnaires. Et j'ai une pensée pour Alain Rey qui nous a quittés il y a quelques jours là, le père du Robert. Et j'ai ouvert ce matin en me disant voyons voir au hasard le petit Robert qui est devant moi. Et je suis tombé sur le mot formica en fait. Et c'est marrant parce que ça m'a ramené finalement au début de notre discussion tout à l'heure sur l'enfance, la jeunesse. Et je me rappelle de ce mot formica. Je sais même plus si le formica c'est quelque chose qui sert à notre époque. Donc j'ai regardé à nouveau de voir quel rapport ça avec les fourmis et l'acide formique. Bref, donc un conseil de lecture que je peux donner, c'est étrange de le dire comme ça, mais les dictionnaires sont des romans, donc allez-y, ouvrez des dictionnaires. Et pendant que j'y suis, il y a deux autres Alain qu'on peut célébrer autour des mots. Il y a les bouquins de Bentolila sur la façon dont le verbe est un rempart contre la barbarie, vraiment. Sur le fait que, si je me rappelle bien ce qu'il disait aussi, on ne construit pas une seconde langue, une langue étrangère, sur les ruines de sa langue maternelle. Voilà. Donc, pas mal de choses qu'il a pu écrire me touchent. Donc, je pense que ce sont des choses à lire et à relire. Et peut-être le troisième Alain que je pourrais célébrer, c'est un ami, il s'appelle Alain Mariglio. Il est écrivain maintenant. Après avoir été instituteur et avoir été dirigeant d'entreprise, je conseille la lecture d'un de ses livres parce que c'est sans doute au-delà du fait que c'est un ami, je trouve qu'il a écrit l'un des plus beaux livres qui soit sur la classe. Ce livre s'appelle Dans la classe. Il a été publié aux Équateurs et vraiment vous verrez à quel point pour les adultes de demain, ce qu'on appelle aujourd'hui professeur des écoles est sans doute le plus beau métier du monde. Et pour les petits, ma foi, qu'est-ce que les petits peuvent lire ou relire? Je regarde autour de moi. Qu'ils aillent donc mettre leur nez dans les histoires naturelles de Jules Renard. Et ils découvriront peut-être des choses sur la baleine, sur la couleuvre ou sur la chenille, et ça les fera marrer. Voilà,
ça les fera rêver. Super, merci beaucoup Philippe, c'était passionnant.
Avec grand plaisir.
Et vous avez vraiment bien transmis cette passion, donc on va aller ouvrir un dictionnaire dès maintenant. Je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une très belle fin de journée.
Merci beaucoup Stéphanie et merci Sylvie.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant les adultes de demain. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclèves.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil Sylvie Desc, D-E-S-C, tiré du bas Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.